Et c'est le moment d'accueillir Lynn Kearney pour parler finances, mais statut d'emploi aussi aujourd'hui plutôt. Lynn, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Oui, ça va bien.
Ça va bien, merci. Oui, de retour en studio.
Ben oui, en personne, et tu sors de ta saison des impôts aussi.
Oui, 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 qui se termine officiellement dans quelques heures.
Donc ceux qui n'ont pas fait leurs impôts, il vous reste une couple d'heures.
Ah ben appelez-moi pas, là, non, ma saison est finie.
Non, réécoutez les chroniques précédentes,
oui, c'est
on
ça.
Avait des bons trucs.
Ben, en fait, vous pouvez m'appeler, mais je ne pourrais pas vous garantir de produire avant minuit ce soir.
Ça pourrait être difficile, effectivement. Là, on va parler aujourd'hui de statut d'emploi, d'être salarié ou être travailleur autonome, parce que ce sont deux réalités différentes, puis ben, faut pas se tromper justement quand on déclare nos revenus, puis quand on fait nos trucs plus fiscaux, là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est important. Souvent, les gens, puis c'est des questions qui me sont posées de temps en temps, puis que j'ai vu revenir justement dans la saison d'impôts, parce que, bon... Au niveau de l'impôt, là, puisqu'on est là-dedans, quand on est un salarié, on reçoit un T4 là, de notre employeur. Puis quand on est travailleur autonome, on reçoit un T4A. Ça, c'est fait qu'un, quand on est salarié, on reçoit une paye avec, règle générale, un taux horaire ou un montant annuel divisé par le nombre de périodes de paye, selon c'est quoi notre statut d'emploi. Puis sur notre paye, il y a des déductions usuelles là, qui sont l'assurance-emploi, le RQAP, la régie des rentes. On paye de l'impôt à la source au fur et à mesure. Puis à la fin de l'année, on reçoit un T4A. Quand on est travailleur autonome, on reçoit des honoraires. Donc, on peut avoir une entente. Normalement, quand on est travailleur autonome, la personne qui nous paye, c'est pas notre employeur, c'est un client.
Oui, c'est ça.
Fait que quand on
lui a fourni une facture, puis il nous paye ça.
Exactement. On lui a fourni une facture, puis il nous paye ça. Il nous paye nos honoraires. Donc, tu sais, à la base, les gens peuvent se dire, ben là, moi, tant que je gagne de l'argent, je m'en fous, là, je suis travailleur autonome ou employé. Il faut faire attention. Si on est travailleur autonome, puis qu'on reçoit des honoraires au fur et à mesure, si le lien qu'on a avec notre donneur d'ouvrage ressemble plus à un lien employeur-employé que contracteur-contractuel, puis là, je vais vous donner quelques critères, bien, on n'est pas vraiment un travailleur autonome. Peut-être que financièrement, ce statut-là fait notre affaire et fait l'affaire de notre employeur slash client.
Ouais.
OK? Parce qu'il peut y avoir des avantages autant pour les gens qui donnent des contrats que pour les gens qui reçoivent les contrats de choisir un statut ou l'autre. Mais la vraie histoire, c'est Revenu Québec qui nous la raconte.
Ouais.
Donc, on peut bien vouloir préférer, autant, comme je vous dis, autant de notre côté qui reçoit des sous que, que si on est employeur ou employé, on peut préférer une ou l'autre, mais il faut faire attention parce qu'à la fin de l'année, si on choisit d'être travailleur autonome puis que le donneur d'ouvrage choisit d'avoir un contractuel plutôt qu'un employé parce que c'est plus avantageux, il considère que c'est plus avantageux pour lui, puis qu'à la fin de l'année ou à la fin de 2 années ou de 3 années ou de jusqu'à 6 années, hein, aussi le gouvernement, il peut regarder en arrière, il y a un miroir qui voit loin en arrière dans son auto, bien, ça peut coûter pas mal cher parce que là, si on a eu des honoraires, puis que, je sais pas, exemple, moi, j'ai fait dans les 3 dernières années 100 000 $ d'honoraires sur 3 ans, admettons, bien là, les taux d'impôts que j'aurais dû, pas les impôts, parce que les impôts, je vais en payer quand même, je vais déclarer normalement mes revenus mais les taux de la régie des rentes, l'assurance-emploi, tout ça, moi, je vais avoir produit mes impôts comme travailleur autonome, je vais en avoir payé un petit peu, mais l'employeur n'en aura pas payé. Fait que tout le monde va se faire rattraper puis se faire cotiser rétroactivement, puis c'est pas plaisant.
Donc là, si on veut être sûr qu'on est dans le bon statut, qu'on a le pied du bon bord de la ligne, là, qu'est-ce qu'il faut regarder?
Si vous pensez que vous êtes un travailleur autonome, mais que la personne qui vous verse vos honoraires, elle a un contrôle sur votre travail, un lien d'autorité ou de subordination, bien, je vous annonce que si c'est pas vous qui choisissez votre horaire, si c'est pas vous qui détenez vos propres outils de travail, puis si, exemple, moi, j'ai une adresse, tu sais, toi ici, tu as une adresse courriel chga.fm, ben, t'es un salarié, là. Tu sais, t'es pas un. Si on est vraiment comme on appartient à l'organisation au niveau de nos outils puis de notre cadre de travail, on n'est pas un travailleur autonome. Donc, déjà là, peut-être que certains disent oh, « ben moi, c'est pas moi qui choisis mes affaires, mais pourtant, je suis juste contractuel. Ben, »
Un petit drapeau rouge.
Un petit drapeau. Je vous dis pas, je veux dire, chaque situation,
on
part pas en panique, chaque situation est unique, mais reste que ça, c'est la principale, la subordination, là, c'est le plus important. Quand on est salarié, ben on a un employeur qui établit nos conditions d'emploi, notre horaire, notre salaire. C'est sûr que quand on est salarié, on peut aussi négocier notre salaire, mais quand on est travailleur autonome, c'est un contrat de travail, c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat d'honoraire.
De service. Oui,
c'est ça qui est négocié. Si c'est pas vous qui choisissez, je parlais de la propriété des outils de travail, mais si c'est pas vous qui choisissez vos méthodes, vos outils, vos livrables, si c'est pas vous qui décidez comment vous faites puis quand vous faites vos choses, vous êtes vous êtes
plutôt salarié.
Salarié, oui. Exactement. Si la personne qui vous donne du travail, parce que là, j'ose pas dire employeur ou, mm-hmm, ou contracteur, peut prendre des mesures disciplinaires contre vous ou vous donner des petites tapes sur les doigts, là, des petites tapes gentilles, là, les employeurs, il faut être gentil, tout le monde. Mais à ce moment-là, vous êtes probablement salarié plus qu'un travailleur autonome. Il faut savoir, le critère de subordination, c'est pas le seul. Il y a, bon, le critère économique ou financier. Si votre revenu annuel provient à 90 % ou plus du même endroit, ça aussi, c'est un petit drapeau. Mm-hmm. Ça veut pas dire que ça se peut que vous ayez seulement un seul client, un client majoritaire, puis ça peut s'expliquer. Mais si le travail que vous faites pour cette entreprise-là ou cet exploitant d'entreprise-là est quelque chose de normal dans les opérations de l'entreprise et que c'est votre source de revenus principale, ben drapeau, là, parce qu'il est fort à parier que ça pourrait très bien être fait par un salarié puis que ça pourrait ne pas être reconnu par Revenu Québec comme un statut de travailleur autonome.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est de là que ça part. C'est Revenu Québec, au bout de la ligne, qui va être capable de dire oui ou non. Là,
et oui, puis je vous parle de Revenu Québec parce que, comme je vous dis, on peut s'entendre, toi et moi, sur une relation employeur-employé ou contracteur-contractuel, mais la vraie histoire, malheureusement, c'est pas nous qui la dictons, c'est les autorités fiscales. Donc, il y a des impacts pour les travailleurs autonomes. Ça peut être intéressant d'être un travailleur autonome. On déduit nos propres dépenses contre nos revenus, tandis que quand on est un salarié, ben, il faut que l'employeur... Tu sais, souvent, si je me déplace, moi, pour fin d'affaires avec mon véhicule, mon employeur va me donner un taux, une indemnité au kilomètre. Mm-hmm. Bon, quand je suis un travailleur autonome, soit que je vais mettre ça dans mes honoraires, mais en tout cas, je vais l'avoir comme revenu, mais je vais pouvoir déduire l'entièreté de mes dépenses aussi. Je peux déduire beaucoup plus de dépenses contre des revenus de travailleur autonome que contre des revenus d'emploi. Ceci dit, ça peut faire l'affaire des fois de certains employeurs. Fait que, petit drapeau, là, si vous voyez qu'il y a vraiment un donneur d'ouvrage qui insiste pour que vous soyez, en vous disant donc que c'est beaucoup plus avantageux pour vous, ça se peut, puis c'est correct. Mais moi, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Mais moi, j'aime bien quand les gens comprennent.
Ouais, vérifiez vos choses. Vérifiez,
parce que ça se peut que finalement, ça soit un contrat qui vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Puis que si vous divisez le montant total de votre contrat par le nombre d'heures que vous allez y consacrer, vous allez peut-être vous ramasser en dessous du salaire minimum, là, quand vous avez déduit vos dépenses de tout ça.
Faut bien calculer nos choses.
Faut bien calculer nos choses, c'est ça. Parce que oui, on peut déduire des dépenses, mais tu sais, si je fonctionne sur un contrat de 5 000 puis que j'ai 4 000 de dépenses, qu'il m'en reste 1 000, que je mets 50 heures là-dedans, ben, je suis rendu à 5 piastres l'heure, là. Fait que ça peut être intéressant pour un donneur d'ouvrage d'essayer de pousser par là un petit peu. Fait que je dis pas que c'est nécessairement le cas, mais je dirais, faites attention, comptez bien vos choses. Si vous voyez quelqu'un insiste, si vous sentez que ça, c'est quelque chose que je devrais peut-être être sur le payroll. La Régie des rentes du Québec, c'est 5,5% de votre salaire que vous payez comme employé. Quand on est travailleur autonome, on paye l'employeur aussi paye ça. Là.
Okay, oui.
On va faire un chiffron, là, 6%. Okay? Fait que 12
pour 6 pour un, 6 pour l'autre.
C'est ça. Fait que c'est 12%, grosso modo, de Régie des rentes que vous aurez à payer vous-même.
Comme travailleur autonome, parce qu'on est et l'employé et l'employeur.
Oui, c'est ça. Puis ça, vous ne voyez pas ça avant la fin de l'année sur votre rapport d'impôt. Mais quand vous allez faire votre rapport d'impôt comme travailleur autonome, si vous avez gagné 10 000 $ de revenu de travail autonome, il n'y a pas de déduction. Là. Vous payez 12% de ça en cotisation à la Régie des rentes. Une chance, là, parce que ça va vous permettre d'avoir une rente plus tard.
Oui, mais ça peut, on peut faire le saut à la fin de l'année.
Exactement. Fait que, on peut faire le saut si on n'est pas habitué. Fait que, je pourrais en parler là, encore, je vois le temps filer, Sébastien, mais ça peut sembler très anodin. On peut être juste content d'avoir un revenu puis de checker nos petites affaires, mais regardez Revenu Québec, qui est une source d'informations. On les aime, on les aime pas, Revenu Québec, hein, des fois, mais c'est une source d'informations. Ouais, et il y a un questionnaire super facile à faire. Juste taper dans Google « travailleur autonome versus salarié » ou des mots-clés qui ressemblent à ça. Vous allez trouver, là, est-ce que je suis un travailleur autonome ou un salarié? Vous allez pouvoir répondre à quelques questions. Puis vous allez peut-être faire « OK ». Peut-être que c'est correct, peut-être que vous allez rester comme ça, mais au moins, vous allez avoir un flag levé en sachant que vous êtes peut-être sur la ligne, puis peut-être là, éventuellement revoir vos choses si vous pensez que si ça vous fait peur un petit peu au niveau
et
de
comprendre, comme tu disais.
Comprendre, c'est ça, parce qu'il y a une différence. Puis là, je dis ça, j'ai eu tendance plus là, dans la chronique à m'adresser aux gens qui reçoivent des revenus, mais aux petites entreprises qui donnent des contrats aussi. Les gens, ils pensent pas, parce que j'ai des PME, des petites entreprises dans une clientèle aussi, puis tu sais, je me le fais demander, c'est du trouble un peu, un payroll, un petit peu. C'est plus simple faire juste un chèque à quelqu'un. Il faut faire attention quand même, là. Regardez vos choses comme il faut, parce que ça peut vous ramasser là, une cotisation fiscale dans le détour là, quelques années plus tard.
C'est pas, puis ça, c'est pas intéressant.
Non.
Lynn Kearney, un grand merci. La semaine prochaine, on parle de retraite?
Oui, on va parler de retraite. On a parlé beaucoup de crédit d'impôt, tout ça, là, je sors de l'impôt là, d'ici la fin de la saison. Là, je pense qu'on n'en parlera plus, on va trouver d'autres sujets. Les revenus à la retraite, là, les rentes gouvernementales là, auxquelles on peut s'attendre si on est proche de notre retraite. Puis, tu sais, un REER, là, on le sait que c'est bon pour économiser de l'impôt, mais on fait quoi rendu quand c'est le temps de l'utiliser? Là, comment on fait?
Pour être sûr d'en avoir le plus pour notre argent.
Oui, c'est ça. Quelle sorte de. Qu'est-ce qu'on peut. Ce à quoi on peut s'attendre comme revenu à notre retraite.
Excellent, Lynn Kearney. Un grand merci, puis à lundi prochain.
Merci, Sébastien.